Quelle joie encore de retrouver les saints de Dieu, car Dieu nous appelle des saints choisis depuis la création, avant même la fondation du monde, pour que nous puissions hériter de ses grâces et de sa bonté. Voilà, donc ce matin, en tout cas, je vous salue tous dans le nom de Jésus et j'aimerais que nous puissions encore continuer à nous exhorter à travers la parole. Et ce matin, j'aimerais nous rappeler tout simplement que les deux derniers dimanches, nous avons vu comment l'Église peut être connectée à Dieu. Et ensuite, nous avons vu que nous sommes précédés par le Christ. Si nous sommes précédés par le Christ, il a déjà préparé des œuvres en avance, avant même que nous puissions aller sur le chemin, afin que nous puissions les appliquer pour la gloire de son nom et surtout pour son royaume. Et si le Seigneur a déjà préparé ses œuvres, il nous donne la responsabilité ce matin en tant qu'Église, en tant que frères et sœurs, à discerner les dons et les ministères qu'il nous a confiés ensemble afin que nous puissions exercer ces dons, les mettre en œuvre et que ces ministères puissent porter du fruit au sein de son Église et pour sa gloire. Désolé pour les responsables parce que tous ceux qui forment et qui ont suivi la formation, parce que c'est la suite un peu en Église afin que nous puissions ensemble, collectivement, aller vers quelque chose de plus pratique et que le discernement puisse se faire ensemble. Nous allons lire Éphésiens 4, versets 11 à 13 et Romains 12, versets 5 à 8. Et ensuite, nous allons essayer de tirer quelques exhortations à travers ces deux textes. Romains, Éphésiens 4, verset 11. Je vais d'abord lire le verset 3 et 4, 6 et 7, et ensuite, avant de lire le verset 11 et 13. Lisons. Efforcez-vous de maintenir l'unité que donne l'Esprit Saint par la paix qui vous lie les uns aux autres. Il y a un seul corps et un seul Saint-Esprit, de même qu'il y a une seule espérance à laquelle Dieu vous a appelé. Il y a un seul Dieu, le Père de tous, qui règne sur tous, agit par tous et demeure en tous. Cependant, chacun de nous a reçu un don particulier, l'un de ceux que le Christ a généreusement accordé. Le verset 11, c'est lui qui a fait des dons particuliers aux hommes, des uns, il a fait des apôtres, d'autres des prophètes, d'autres encore des évangélistes, des pasteurs ou des enseignants. C'est ainsi qu'il a rendu le peuple de Dieu apte à accomplir son service pour faire croître le corps du Christ. De cette façon, nous parviendrons tous ensemble à l'unité de la foi dans la connaissance du Fils de Dieu. Nous deviendrons des adultes dont le développement atteindra la stature parfaite du Christ. Et si nous relisons Romains 12, versets 5 à 8. De même, bien que nous soyons nombreux, nous formons un seul corps dans l'union avec le Christ et nous sommes tous unis les uns aux autres comme des parties d'un même corps. Nous avons des dons différents à utiliser selon ce que Dieu a accordé gratuitement à chacun. Si l'un de vous a le don de transmettre des messages reçus de Dieu, il doit le faire selon la foi. Si un autre a le don de tenir, de servir, qu'il serve. Celui qui a le don d'enseigner doit enseigner. Celui qui a le don d'encourager les autres doit les encourager. Que celui qui donne ses biens le fasse avec une entière générosité. Que celui qui dirige le fasse avec soin, que celui qui aide les malheureux le fasse avec joie. Donc, nous voyons dans ces deux textes que notre Église est bénie. Notre Église est bénie parce que le Seigneur a rempli son Église, a déposé au sein de son Église son esprit qui nous accorde ses dons et qui établit des ministères afin que l'Église puisse grandir et croître à la gloire de notre Seigneur. Nous recevons le don de l'Esprit au moment du don du salut par la grâce et par la foi. Cela nous montre que lorsque nous sommes devenus chrétiens, nous avons confessé Jésus, l'Esprit de Dieu est en nous et par la même occasion, l'Esprit de Dieu va opérer ses dons afin que nous puissions le servir. Comme Moïse a dit dans sa prière, nous sommes nés pour te louer et ici nous sommes sauvés pour servir. Nous sommes sauvés non seulement pour participer à la communauté de Dieu et aussi pour être au service de son royaume afin que d'autres aussi puissent avoir l'occasion de le rencontrer. Notre Dieu est généreux. Il a libéré son esprit dans l'Église. C'est la générosité de Dieu qui est mise en œuvre ici. Par Jésus, il a dit, « Je vais partir, mais je vais vous envoyer mon esprit. Et lorsque mon esprit sera avec vous, oui, il va vous conduire dans toute votre vie et aussi dans la vie de l'Église. » Ensuite, nous voyons que les dons et les ministères viennent de la grâce imméritée de notre Seigneur. C'est simplement par grâce que les dons et les ministères que Dieu a choisi d'accorder à son Église sont possibles. Ce n'est pas parce que nous sommes meilleurs que les autres, ce n'est pas parce que nous connaissons mieux que les autres, mais simplement Dieu a trouvé grâce de donner aux uns et aux autres des dons et des ministères afin que cela, l'Église, son Église, puisse être édifiée et puisse être conduit vers une maturité pour sa gloire. L'Esprit a libéré les dons et les ministères nécessaires à la croissance du corps, à la croissance de l'Église, à la croissance du peuple de Dieu. Chacun de nous, nous ne cessons de croître, nous ne cessons d'avancer avec le Seigneur. Nous avons toujours besoin, jusqu'à ce que Jésus revienne, nous n'avons pas cessé. Si nous cessons de croître, c'est qu'il y a un problème. Le Seigneur, sa volonté, c'est que chaque jour qui s'élève, que je me demande, que nous nous demandions, et où en sommes-nous? Où suis-je par rapport à ma foi? À quel niveau j'aimerais encore plus aller en profondeur avec la connaissance du Christ? Et dans quel domaine le Seigneur veut que le don qu'il m'a accordé, qu'il nous a accordé, puisse être encore perfectionné par son esprit et à l'œuvre pour le bien de chacun de nous. Comment discerner maintenant les dons et les ministères? C'est ça la question, surtout en temps de COVID et aussi en temps de moments Zoom. Nous avons vu comment l'Église peut être connectée par l'amour fraternel, mais en cette période, c'est compliqué encore de discerner les dons des uns des autres parce que nous vivons à distance et la distance peut être difficile à pouvoir discerner clairement les dons et les ministères peut-être que le Seigneur a accordé à chacun, surtout si on ne connaît pas la personne. Nous allons essayer de faire une petite révision de la diversité des dons et des ministères que Dieu a accordé à son Église. C'est une révision parce que je sais que déjà vous le savez, mais c'est bien de temps en temps de faire un arrêt et de revenir là-dessus parce que c'est comme ça que l'Église peut encore se rappeler de cette présence de notre Seigneur par son Esprit au milieu de nous et de sa volonté de nous conduire vers un but qui l'honore. Et deuxièmement, nous allons essayer de voir l'action de l'Esprit en nous, qui est le fruit. c'est important que nous puissions savoir que quelle est l'action de l'Esprit premièrement en nous. Et ensuite, nous pourrons maintenant déterminer l'action de l'Esprit avec nous, c'est-à-dire le service. Les deux sont importants parce que si nous ne portons pas le fruit et nous exerçons un service, cela peut avoir des contradictions parce que le service, le fruit précède le service. Et c'est ce que réellement le Seigneur veut avec nous, que nous puissions porter le fruit et que le service soit d'une manière en cohérence avec le fruit que nous portons. Donc, il y a une diversité de dons et de ministères, comme l'a dit, comme nous l'avons lu tout à l'heure en Éphésiens 4, nous voyons qu'il y a une grande diversité de dons et de ministères que l'Esprit a libérés au sein de son Église. Et cela peut soit créer une dynamique de croissance, parce que le but, selon Éphésiens 4, c'est que le corps tout entier puisse croître à la maturité spirituelle et aussi à un développement à la stature du Christ. Ou les diversités de dons, si on n'arrive pas à les coordonner et à les faire travailler harmonieusement ensemble, ça peut créer aussi des divisions, des divergences, comme dans 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, nous voyons que l'Esprit était libéré, les dons étaient là et les ministères étaient là, mais finalement, ça créait plus de désordre, plus d'incompréhension, plus de difficultés dans l'Église et des divisions. Que le Seigneur nous permette vraiment de saisir qu'est-ce que le Seigneur veut faire avec ces dons qu'il a disposés dans l'Église et aussi les ministères qu'il a disposés dans l'Église, comment nous pouvons faire travailler ces dons et ces ministères d'une manière harmonieuse afin que l'Église puisse se développer. Nous voyons que selon Éphésiens 4, il y a 5 ministères et certains disent 4 ministères, mais je n'aimerais pas chercher de polémiques, j'aimerais tout simplement redire ce que l'Écriture a dit. Il a donné à l'Église des apôtres, d'autres des prophètes, d'autres des pasteurs ou docteurs ou enseignants et d'autres des évangélistes. Ici, nous voyons que les apôtres sont aujourd'hui de ceux qui implantent les églises que Dieu a choisi et continue de choisir, diriger pour implanter des églises. Les prophètes sont ceux que Dieu a choisi pour proclamer l'évangile, pour enseigner, pour prêcher aussi, parce qu'ils transmettent le message de Christ. Et les pasteurs et docteurs sont aussi, ou anciens, pasteurs ou anciens ou docteurs, c'est ceux-là qui sont dans l'Église pour prendre soin de l'Église comme des bergers et pour enseigner l'Église, pour permettre que l'Église puisse être équipée et à partir de là, être des ouvriers dans la moisson. Et les évangélistes, certainement, sont ceux qui apportent l'Évangile à l'extérieur, aux non-croyants, qui s'adressent au peuple non atteint afin que le message de l'Évangile puisse continuer à être diffusé. Donc, avec le Romains 12, nous voyons qu'il y a plusieurs dons. Le don de transmission du message, le don d'enseigner, le don de foi, le don d'encouragement, le don de générosité, le don de diriger, d'administrer, de gouverner, le don de miséricorde et le service ou l'aide. Avec ce tableau, j'aimerais chacun de nous se pose la question. Qu'est-ce que le Seigneur veut m'utiliser à travers ces ministères et ces dons? Dans quel domaine le Seigneur est en train de m'utiliser? Dans quel domaine le Seigneur a déjà préparé des services ou des ministères ou des dons afin que je puisse entrer dans cela? Et cela nous permettra non seulement de ne pas s'attarder à se poser et à travailler, à chercher ce qui se passe en nous, mais déjà, qu'est-ce que le Seigneur attend de moi? Au moment où je suis sauvé, au moment où il m'a mis à part, il attend de moi que je puisse vraiment l'adorer, que je puisse le servir et m'engager pour la cause de son royaume. Les dons de ministère connus par l'Église et coordonnés doivent être connus par l'Église et conduits d'une manière harmonieuse afin que cela puisse bénir l'Église. Il y a ceux qui ont des dons et qui se disent, oui, j'ai le don d'évangéliste, mais on ne le voit jamais quand il s'agit d'évangélisation. Certains peuvent dire, je suis enseignant, mais on ne le voit jamais quand il s'agit d'accompagner des personnes pour la découverte de la parole de Dieu. Comment peut-on dire simplement que j'ai un ministère de prophète, d'apôtre, de transmettre un message de foi, d'encouragement ou de générosité, et finalement, il n'y a pas de témoignage de l'Église, il n'y a pas d'acte, il n'y a pas d'une manière pratique quelque chose qui témoigne que ce ministère-là est le Seigneur ou ce don le Seigneur a déposé en moi. Diversité de dons et de ministères, nous pouvons discerner trois grandes familles de ministères. Et chacun de nous, comme il est dit dans le verset, tous ont un don ou un ministère. Le Seigneur nous a accordé tous. Ce n'est pas simplement quelques-uns qui en ont reçu et d'autres n'en ont pas reçu. Au moment du moment que nous avons confié et nous avons mis notre confiance au Seigneur, le Seigneur a déposé en nous ces cadeaux gratuits et qu'il nous donne pour honorer et glorifier son nom. Trois grandes familles qui répondent à la question comment, c'est-à-dire la famille de ceux que Dieu a envoyés, a choisis ou a déposé des dons pour enseigner, pour organiser, pour exhorter, pour transmettre des paroles de sagesse, pour transmettre des paroles prophétiques, c'est-à-dire de l'ordre de l'enseignement ou de la prédication, parce que c'est la parole de Dieu et ou des paroles de connaissance. Ensuite, il y a la deuxième famille qui répond à la question qui, c'est-à-dire les bergers anciens, qui sont ceux qui servent, ceux qui ont l'hospitalité, la libéralité, l'aide, la miséricorde et la guérison, qui s'intéressent aux individus, qui s'intéressent à ceux qui souffrent, qui s'intéressent à ceux qui sont dans les besoins et qui sont aussi peut-être qui s'intéressent à ceux qui sont peut-être dans malades et qui visitent les malades, qui visitent ceux qui sont prisonniers, qui visitent ceux qui sont vraiment dans le besoin, dans la solitude. Cette famille de ministères et de dons, nous savons que dans l'Église, il y en a plein qui peuvent avoir ces ministères-là. Et ces dons et peuvent rejoindre cette famille de ministères pour servir ensemble en tant qu'équipe. Comment celui qui visite, qui fait l'hospitalité peut servir avec celui qui fait la libéralité et ainsi de suite. Celui qui visite les prisonniers peut aussi visiter avec les personnes qui souffrent au sein de l'Église. Et ensuite, la troisième famille, c'est la famille des apôtres, c'est-à-dire des implanteurs ou des évangélistes, où le discernement, la direction, les miracles, et cette famille répondent à la question où, c'est-à-dire où le besoin se fait sentir pour implanter une église, où devrions-nous aller pour la mission, pour évangéliser, pour apporter la bonne nouvelle, à quel endroit nous devons installer un lieu d'église pionnière pour commencer la mission. Voilà, toutes ces trois familles sont pour nous une richesse que l'église peut cultiver, peut harmoniser afin que le travail puisse glorifier et honorer son nom. Au lieu de créer des ministères divers, est-ce que ces ministères, ces dons ne peuvent pas travailler d'une manière ou d'une autre les uns en famille, comme par exemple le berger, comme par exemple la famille apôtre ou comme la famille enseignant? J'en ai besoin, par exemple, je prends l'exemple de mon cas, en tant que pour enseigner, j'ai besoin souvent de relecture. J'ai besoin souvent de quelqu'un qui m'aide pour taper, organiser, pour taper faire saisir les notes. Et souvent, je vois l'importance de ces ministères que Dieu a accordé à certains qui peuvent relire, qui peuvent administrer, qui peuvent organiser les choses d'une manière pour que ça puisse être possible de transmettre quelque chose, un message efficace, fiable et qui glorifie le Seigneur. C'est la même chose aussi que ceux qui font des visites, qui font par exemple des services dans les hôpitaux, dans les EHPAD. Pourquoi pas peut-être organiser une équipe de ceux qui visitent, de ceux qui travaillent à l'aide, de ceux qui travaillent dans le service à l'aide de la personne. Ensuite, l'action, en deuxième point, nous allons voir maintenant l'action de l'Esprit en nous, c'est-à-dire le fruit. Comme j'avais déjà évoqué, le fruit précède le service. Si le fruit ne précède pas le service, on va se retrouver avec un service qui va être en contradiction avec ce que peut-être l'Église attend. Et vous le savez, en lisant 1 Corinthiens, vous savez que les Corinthiens recherchaient plus le service qui était d'une manière éloquente, qui était visible, qui faisait beaucoup de... qui était attrayant. Et finalement, le service qui était attrayant a créé plus de difficultés à gérer avec Paul et les apôtres que plus de bénédictions, de grâces pour porter l'Église. L'Esprit nous aide à porter du fruit à la gloire de notre Seigneur. Le rôle de l'Esprit en nous, premièrement, c'est travailler dans notre vie, dans notre cœur, dans notre être, afin que nous puissions honorer Dieu par notre vie, que nous puissions porter du fruit à la gloire du Seigneur. Le Saint-Esprit a été promis à l'Église pour aider l'Église, pour aider les croyants. Et cela, on ne doit pas perdre de vue cet aspect de l'Esprit. L'Esprit nous donne une nouvelle vie en Christ. 2 Corinthiens 5, versets 17 à 18, nous dit que nous sommes de nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées. Toute chose est devenue nouvelle. Et le Christ nous a fait une nouvelle créature, une nouvelle création. Et cela est une réalité de l'objectif de l'Esprit de Dieu dans notre vie. Et troisièmement, l'Esprit nous rassure que nous sommes enfants de Dieu. Il témoigne à l'intérieur de nous par sa présence que nous sommes enfants de Dieu. Nous ne sommes pas un enfant qui est laissé tout seul comme Thierry l'a dit tout à l'heure, que si une femme peut oublier son enfant, le Seigneur ne nous oublie pas. Son Esprit nous témoigne en nous, même si l'ennemi vient nous accuser. Le Saint-Esprit nous dit, tu es enfant de Dieu, tu es celui que j'ai aimé à la croix et que j'ai donné ma vie pour le salut. Ensuite, l'Esprit nous conduit en nous permettant de marcher par l'Esprit. Galates 5 nous nous dit clairement que si nous marchons par l'esprit, nous n'allons pas céder à la chair. Nous n'allons pas commettre des choses qui relèvent de la chair. Ensuite, l'esprit nous illumine la pensée pour la compréhension de sa parole. Il nous dirige dans sa volonté par le biais de sa parole. Éphésiens 1, verset 18 nous dit que l'Esprit de Dieu illumine nos pensées afin que nous puissions comprendre quelle est la grandeur de la richesse que Dieu nous accorde en Christ. Et ensuite, l'Esprit Saint produit son bon fruit en transformant notre caractère à la ressemblance de notre Seigneur Jésus-Christ. Galates 5, verset 22-23 nous cite le fruit de l'Esprit, les aspects du fruit de l'Esprit en nous, dans le croyant. Et cela est important pour permettre que le fruit de l'Esprit puisse produire des conséquences au niveau du service que nous voulons donner au sein de l'Église ou à Dieu pour sa gloire. L'action de l'Esprit maintenant avec nous. Quelle est son action avec nous? Les trois vertus théologales de l'espérance, de l'amour et de la foi en 1 Corinthiens 13 peut résumer et synthétiser ce que l'Esprit attend de nous, ce que l'Esprit nous utilise pour atteindre, c'est-à-dire l'espérance. Il nous amène sur l'amour, il nous amène aussi sur la foi. Perfectionner les saints, équiper les saints et conduire les saints dans l'espérance, dans l'amour et dans la foi. L'espérance, l'esprit se manifeste par l'exhortation, la sagesse, la parole de connaissance, l'administration. En 1 Romains 15, verset 4 nous dit que Christ vous permet d'abonder en espérance. Et ceux qui enseignent la parole, l'écriture, nous a été donnée afin que cette écriture, cette parole puisse nous permettre de bonder en espérance. Nous allons lire Romains 15, verset 4. Tout ce que nous trouvons dans l'écriture a été écrit dans le passé pour nous instruire afin que grâce à la patience et au réconfort qu'elle nous apporte, nous possédions l'espérance. Et cette espérance ressort de l'écriture, ressort de l'enseignement de la parole, ressort de l'exhortation, de la sagesse que Dieu permet et de connaître et aussi de l'administration dans l'Église, c'est-à-dire la direction et souvent qui peut demander aussi beaucoup de travail. L'amour, l'esprit se manifeste par des services d'hospitalité, la libéralité, l'aide à la personne, la guérison, comme 2 Corinthiens 13 nous le dit. 2 Corinthiens 1, verset 4. Il nous réconforte dans toutes nos détresses afin que nous puissions réconforter ceux qui passent par toutes sortes de détresses en les apportant du réconfort que nous avons nous-mêmes reçu de lui. Le Seigneur nous montre là que ceux qui réconfortent, ceux qui font l'hospitalité, ceux qui sont dans les dons de la libéralité travaillent pour que l'amour soit visible, que l'amour nous touche, que l'amour ne soit pas simplement théorique, que des paroles « je t'aime, moi aussi », mais que ça soit concret, concrétiser cet amour pour le peuple de Dieu, pour l'Église, et cela peut permettre que nous puissions approfondir, grandir en amour. Ensuite, la foi, l'esprit se manifeste par la proclamation de l'Évangile, l'implantation d'églises, la mission vers les peuples non atteints, la direction des ministères. Romains 1, verset 16 et 17 nous le dit également. Que le Seigneur nous donne la possibilité de discerner ceux qui travaillent pour l'espérance, ceux qui travaillent pour l'amour, ceux qui travaillent pour la foi, non pas ils travaillent simplement pour l'espérance et ils négligent l'amour ou ils négligent la foi, mais surtout ces trois vertus sont harmonieusement, travaillent harmonieusement afin que l'Église puisse grandir, abonder en espérance, puisse abonder et grandir en amour, puisse grandir et abonder en foi. Voici ce que le Seigneur veut pour son Église et le Seigneur nous conduit afin que les dons et les ministères puissent travailler en harmonie à la gloire de son nom. En conclusion, il y a plusieurs types de dons et de plusieurs types de ministères au sein de l'Église. Le Seigneur a accordé à son Église plusieurs types de ministères et de dons. L'Esprit nous aide à porter du bon fruit à la croissance pour la croissance dans sa vérité. Et ensuite, l'Esprit est en nous et avec nous pour le progrès de l'Évangile. Comme il est dit à Timothée, Paul dit à Timothée 1, Timothée 4, verset 14, « Ne néglige pas le don spirituel que tu possèdes. C'est lui que Dieu t'a donné lorsque les prophètes ont parlé et que les anciens ont posé les mains sur toi. À tout cela, donne-toi entièrement. » Et pardon, je n'arrive pas à les lire correctement. Veuillez me pardonner pour la lecture de ces textes. Voilà. Donc, le Seigneur nous a donné des dons et des ministères, mais est-ce que nous négligeons ces ministères et nous négligeons ces dons? Est-ce que ces dons et ces ministères travaillent en harmonie au sein de l'Église? Voici ce que chacun de nous peut vraiment se poser comme question. Et est-ce que nous mettons en sommeil certains ministères ou certains dons au sein de notre Église ou de notre vie? Cette semaine, je vous avoue qu'en faisant le travail d'un test qu'on nous a donné au niveau de la formation, je me suis aperçu qu'effectivement, souvent, on peut mettre en sommeil certains dons. On peut les négliger. On peut négliger le fait même d'encourager un frère ou une sœur peut être un don magnifique à la gloire de Dieu qui peut bénir l'Église. Et le fait même d'être hospitalier, est-ce que souvent on n'a pas mis cela en sommeil? Voilà, que le Seigneur nous aide à réveiller les dons qui sont en sommeil, car l'Esprit est en nous, il nous a accordé ces dons, il nous a accordé des ministères, il a béni son Église, que cela puisse travailler ensemble en harmonie pour la gloire et l'honneur de notre Seigneur. J'aimerais ensemble que nous puissions prier. Seigneur, merci pour ce temps que tu nous donnes. Voici, tu nous exhortes ce matin à nous rappeler, juste un rappel, que lorsque tu as sauvé notre vie, ce n'est pas juste pour le salut. C'est aussi pour que ce salut puisse être l'occasion de te servir, de t'adorer et l'occasion de permettre que d'autres personnes qui ne te connaissent pas puissent te découvrir. Merci pour les dons dans ton Église. Merci pour les multiples, les diversités de dons que tu as déposés au sein de notre Église. J'aimerais te bénir pour les dons d'hospitalité, les dons, de générosité, le don d'accompagnement, Seigneur, avec ceux qui souffrent, des visites que certains dans notre Église abondent dans ces ministères et dans ces dons au sein de l'Église. J'aimerais vraiment, ensemble, au nom de toute l'Église, reconnaître qu'il y a des dons et des ministères qui abondent au sein de l'Église. Seigneur, aide-nous à les reconnaître. Aide-nous à les discerner, aide-nous à les mettre en valeur. Aide-nous, Seigneur, à permettre que ces personnes qui ont des dons et qui n'ont pas reconnu puissent être reconnues au sein de l'Église. Aide-nous, Seigneur, à aussi ouvrir la possibilité qu'il y ait de nouveaux ministères, qu'il y ait une bénédiction, oui, de ministères qui sont suscités par ton esprit, pour ton esprit, Seigneur, afin que ton Église puisse, comme toi-même tu l'as dit dans ta parole, puisse se développer, puisse croître, puisse, oui, être fortifiée, édifiée à la stature du Christ, Seigneur. Merci de permettre que les multiples dons, les diversités de dons et de ministères ne créent pas de conflits, ne créent pas de rivalités, ne créent pas, Seigneur, des frustrations, mais que cela soit harmonieusement coordonné, reconnu par l'Église et que cela puisse participer à la croissance de l'Église, à la proclamation de l'Évangile, à l'implantation de nouvelles églises et aussi à la structuration, Seigneur, de l'ensemble de ton peuple pour la gloire et l'honneur de ton nom. Merci parce que tu es un Dieu bon, un Dieu généreux et qui est avec nous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Que toute la gloire et l'honneur te reviennent au nom de Jésus. Amen.